dossier depuis très longtemps.
Alors, le soupirant, on peut peut-être en parler. Moi, la première fois que j'ai vu le soupirant, c'était il y a longtemps, je l'ai revu il y a pas tellement longtemps à la Cinémathèque, et tout de suite me vient une idée. Bon, c'est vrai qu'Etex continue la grande tradition des burlesques. On a parlé tout à l'heure de Harlotte, Chaplin, etc., Laurel et Hardy, mais il y a Keaton. Et je ne peux pas m'empêcher de penser l'idée de départ, bien qu'à mon avis le résultat soit totalement différent dans les intentions et volontairement de la part des textes, c'est peut-être quelque chose qui a un lien avec Fiancé en folie et Keaton.
Bon, et quand il était enfant et qu'il avait ces fameux films sur le pâté Babi,
il voyait Keaton.
Non, parce que son père lui disait tout le temps, il y a quelqu'un qui s'appelle Malek, puisque Keaton s'appelait Malek en France, qui est merveilleux, que j'aime beaucoup, mais c'était déjà une vieille histoire à l'époque de l'enfance de Tex, Keaton. Et on ne trouvait pas les films de Keaton. Donc, Tex n'avait jamais vu Keaton, et ses carrières qu'il a emmenées à la Cinémathèque, il faudrait vérifier l'année exacte, mais quand Etex a fait Rupture Heureuse Anniversaire, il n'avait jamais vu de film de Keaton. Il ne connaissait pas du tout Keaton. Mais par contre, le jour où il y a eu la rétrospective à la Cinémathèque, il a découvert ce qui est probablement pour lui le plus grand réalisateur du monde. C'est-à-dire que...
Je suis d'accord pour ça, le plus grand.
Voilà.
C'est sûr.
Pour Etex, c'est le plus grand metteur en scène du monde. Et là, je crois qu'il est un peu... Les articles qui sont parus à l'époque du Soupirant, etc., sont un peu rapides en disant que Etex c'est Keaton et que Keaton c'est Etex, parce qu'il y a quand même beaucoup, énormément de différences. Cela dit, c'est vraiment son maître absolu, quoi.
Oui.
Il y a énormément de grands metteurs en scène que Etex admire beaucoup, mais Keaton, c'est pour lui le plus grand metteur en scène du monde.
J'ai l'impression qu'il y a une espèce de proposition de départ qui est un petit peu comme dans Fiancé en folie, doit se marier absolument. Donc faire des propositions de mariage à tout ce qui est un jupon, grosso modo. Et à partir de là, on a le monde des textes qui va être mis
tout
en
à fait,
route.
Oui.
Avec, on pourra parler de sa méthode à lui et de sa conception du monde à lui, qui n'est pas du tout la même
bien
que
sûr.
Celle de Keaton. Mais je dirais la proposition de départ, c'était en même temps, et ça, c'est vrai que quand on voit le soupirant, on ne peut pas s'empêcher de se dire, il y a consciemment dedans un hommage
bien
au
sûr.
Cinéma burlesque. Et d'ailleurs, le film roule très bien du point de vue de la logique interne, des lois internes du burlesque, mais c'est pas un film de 1920, c'est bien un film des années 60, on est d'accord là-dessus. Alors, est-ce que tu pourrais nous parler du Soupirant, que c'est un film que moi j'adore, parce que je le trouve quasiment parfait. Je trouve que c'est un très très beau film. Alors, tu dis petit budget d'abord, l'idée du personnage, carrière et texte.
Oui, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas chez Tex le projet d'un film, mais bien, il n'y avait pas un scénario ou une histoire, mais il y avait à la base un personnage. C'est-à-dire, ils avaient écrit des situations dans lesquelles se retrouvait ce personnage qui était le point de départ du film. Il ne s'agissait pas de raconter nécessairement l'histoire d'un type qui avait des problèmes avec les filles, il s'agissait de raconter l'histoire d'un personnage précis qui avait un certain rapport à la réalité et au monde, et au concret. Bon. Et donc, en fait, Le Soupirant, c'est pas du tout un collage, parce que c'est un film qui est extrêmement cohérent, mais au départ, c'est une succession d'idées qu'ils avaient eues pour mettre en situation Soupirant. Ça aurait pu être presque une série de courts-métrages, comme les premiers courts-métrages de Chaplin, où c'est toujours le même personnage qui est en situation dans différents... Bon, donc il a quand même fallu donner une trame à cette affaire, et le père et la mère du Soupirant, qui sont des gens... ordonnés, sérieux, et qui s'inquiètent de voir leur fils se consacrer plus à l'astronomie qu'à des projets de mariage, finissent par lui dire, écoute, il faut absolument que tu te maries, dans des conditions bien particulières. Et alors, il n'en a pas particulièrement envie, mais il se plie à la discipline qu'on lui demande d'avoir, et pour faire plaisir à ses parents, il cherche des filles, quoi. Puis comme il n'en a pas nécessairement un désir énorme, il va échouer dans toutes les situations où il va se retrouver, jusqu'à trouver un amour fou dans un personnage qui n'existe pas, qui est Estelle, qui est l'étoile, qui est une chanteuse de music hall dont il tombe amoureux, alors qu'il ne peut pas la voir, il ne peut pas lui parler. D'ailleurs, au moment où il réussira à lui parler, ce sera une catastrophe. Donc il tombe amoureux de cette image. Et il finira seulement tout au bout du film par s'apercevoir que le grand amour pour lui, c'est la jeune fille au père qui habite chez ses parents et qui existe depuis le début du film et qui n'a jamais remarqué. Donc il n'a jamais remarqué qu'elle avait du charme, qu'elle l'aimait, qu'elle était amoureuse de lui et qu'elle était adorable, quoi.
Parce qu'il y avait un problème de communication.
Oui, parce qu'elle est suédoise et qu'elle ne parle pas français. Là encore, c'est le problème du contact avec la réalité, parce que le personnage du soupirant, qui n'a pas de nom d'ailleurs dans le film, enfin, il n'a pas de prénom, c'est...
On dirait qu'il vient de nulle part,
oui,
de la
oui.
planète Mars. Un peu.
Il essaye de faire comme il faut, quoi. C'est-à-dire il essaye d'inviter des dames dans des soirées un peu chicos, dans un cabaret, il essaye de payer le champagne, il essaye de faire comme il faut, quoi.
Oui.
Il regarde les hommes autour de lui qui propose des cigarettes aux filles pour les draguer, pour les attirer. Alors, il essaye un peu de faire comme eux, mais comme il n'est pas du tout dans le monde, il n'est pas du tout dans l'existence réelle et dans les rapports amoureux réels, il ne fait que se tromper tout le temps, quoi. Et il ne fait que... Et au moment où il décide de faire du pied à une fille parce que, bon, il paraît qu'il faut faire du pied aux filles, il fait du pied à son voisin.
Il y a sans arrêt des détournements d'objets, il y a des... Ben, je veux dire, c'est moi je trouve que c'est un film qui est très fort, c'est-à-dire que les gags fonctionnent extrêmement bien dans leur enchaînement.
Mm-hmm.
Il y a toutes les lois internes qui résistent et ne résistent pas à la logique quand on y réfléchit. C'est un film qui est très bien huilé, ça fonctionne très bien, ça roule tout seul. Plastiquement, il est très beau. Alors c'est étonnant parce que dans cet intérieur petit bourgeois un peu feutré dans lequel cette famille vit, alors d'abord c'est un personnage assez incroyable parce que le père et la mère, bon moi je dirais rien ne communique, c'est un peu comme dans Mon Oncle, personne ne communique avec personne, et en même temps ils sont pas méchants, il y a une certaine harmonie. Alors j'aimerais que tu m'en parles un peu, c'est un peu, donc je trouve ce personnage vient apparemment de nulle part. Et pourtant, il est très situé dans une réalité.
C'est-à-dire qu'il n'y a aucune méchanceté dans ce qu'on pourrait croire extérieurement comme un portrait de petit bourgeois. C'est-à-dire que ni le père ni la mère ne sont à aucun moment antipathiques.
Absolument.
Ils sont empotés, ils ont des difficultés de communication, ils sont conformistes totalement, mais ils ne sont jamais antipathiques et... Alors, ça peut s'expliquer par deux choses. Ça peut s'expliquer par le fait que Etex avait d'excellents rapports avec ses parents et que quand il est rentré de cette fameuse journée au cirque et qu'il a dit à ses parents à l'âge de 5 ans « je vais être clown », ils ne se sont pas du tout moqués de lui. Ils l'ont dit très bien. Ils ont toujours respecté tous ses désirs et que Etex avait de très bons rapports avec ses parents. Et que d'autre part, Etex n'est jamais quelqu'un ni de malveillant, ni de haineux, ni de critique, c'est-à-dire qu'il a une grande bienveillance vis-à-vis des gens, et donc ces deux personnages de petits bourgeois qui chez un autre metteur en scène auraient été ridicules ou auraient été l'objet d'un portrait méchant sont absolument adorables, et le père il est adorable. En plus, le comédien qui joue le père est quelqu'un que pour qui Etex avait un immense respect, qui est un monsieur qui était un ami de son propre père et qui s'appelle Claude Massot, avec qui Etex a fait plusieurs films, et qui n'avait jamais fait de cinéma. Etex a fait un peu de théâtre amateur avec lui. Et pour montrer quand même le tempérament d'Etex, quand Claude Massot, pour ceux qui ont vu le film, apparaît dans la première scène où, pour parler à son fils et lui dire « il faut que tu te maries » alors que son fils a des boules de caisse dans les oreilles, il n'entend absolument pas ce qu'il lui dit, c'était la première fois que Claude Massot faisait une scène au cinéma. Et il y avait là un accessoiriste qui avait une grande carrière derrière lui, qui se vantait beaucoup d'avoir travaillé notamment avec Jean Gabin, et qui a passé toute la journée à engueuler Claude Massot. À lui dire, c'est pas comme ça qu'on fait, enfin écoutez, vraiment, moi j'ai travaillé avec M. Gabin, je sais comment se fait le cinéma, et il n'arrêtait pas de l'engueuler.